Il est 7h.
Nous avons refusé la fatalité d'une région gouvernée par l'extrême droite. Nous avons pris notre destin en main en dehors des appareils politiques.
Et comme PACA, aucune région n'a basculé dans l'escarcelle du Rassemblement National. Le scrutin d'hier, en revanche, a conforté les sortants de droite et de gauche. Il a aussi mis en lumière des difficultés de La République En Marche. Analyse dans un instant. Une centaine de grands patrons réunis à Versailles ce soir. Nouvelle édition du sommet Choose France. À la clé, plus de 3 milliards d'euros d'investissement et 7000 emplois. Et puis, on vous présentera la version moderne des cartes Panini. Elles sont numériques, mais aussi beaucoup plus chères. Certaines sont parties à plus de 200 000 euros. La réforme des retraites revient, on parle d'un âge départ à 64 ans, juste après ce journal, l'éclairage écho de Nicolas Barré. Le regard international, Didier François.
Oui, alors c'est le retour en politique d'un Donald Trump plus combatif que jamais.
Juste après, l'édito sport, c'est Virginie Fulpin.
France-Suisse en 8e de finale de l'Euro. Ce soir, une rivalité ou un passage obligé? Ça dépend de quel côté des Alpes vous vous trouvez.
Et avant 7h30, notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Laurent Wauquiez, comme prévu, titre ce matin, le Dauphiné libéré, un président de région en force, écrit de son côté le Progrès. Les électeurs d'Auvergne-Rhône-Alpes ont renouvelé leur confiance aux Républicains, Laurent Wauquiez.
Qui recueille 55% des suffrages devançant ses adversaires de plus de 20 points. Reportage à Lyon du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon.
Un gros score, c'est exactement ce que voulait Laurent Wauquiez, qui ce matin fait partie des deux présidents de région de droite les mieux élus du pays. Mieux que Valérie Pécresse et mieux aussi que Xavier Bertrand. Et cerise sur le gâteau pour le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, il fait dans sa région sensiblement reculer le Rassemblement National, dont le score de 2015 a été divisé par deux, la preuve que sa méthode est la bonne, explique Laurent Wauquiez.
Ce soir, les extrêmes ont reculé fortement dans notre région, car nous ne leur laissons aucun terrain pour prospérer. La défense des classes moyenne, le refus de tout compromis par rapport au communautarisme, la sécurité dont nous avons fait notre priorité dans cette région, les terres de l'extrémisme sont celles qu'on lui abandonne. Les Français sont exaspérés quand on ne réagit pas par rapport à ce qui dégrade la France.
Une position droitière assumée et une vision que Laurent Wauquiez veut nationale. Mais hier soir, il refusait farouchement d'évoquer la campagne présidentielle à venir. Et le message avait visiblement été aussi passé aux militants.
Chaque chose en son temps. Ce soir, c'est d'abord la victoire de l'Auvergne-Rhône-Alpes. On ne pense pas au présidentiel ce soir.
Lui, vous voulez pas en parler? C'est dangereux d'en parler?
Pas du tout, c'est pas du tout tabou, simplement je ne vous en parlerai pas.
Y penser tout le temps, n'en parler jamais, c'est apparemment le nouveau credo de Laurent Wauquiez. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
La droite qui conserve donc, c'est cette région, réélection qui pourrait aussi servir de tremplin national à Valérie Pécresse, sortie en tête en Ile-de-France, Xavier Bertrand, victorieux dans les Hauts-de-France.
Un scrutin dont le Parti Socialiste sort aussi requinqué, 5 régions conservées plus une conquise, la Réunion où s'impose Huguette Bello à la tête d'une liste d'union.
La gauche qui enregistre en revanche plusieurs désaveux aux départementales. Les Alpes de Haute-Provence basculent à droite après 20 ans de socialisme, tout comme le Val-de-Marne qui s'affichait communiste depuis 45 ans.
Alors du côté du Rassemblement National, c'est la désillusion. Le parti de Marine Le Pen visait la victoire dans 3 régions, mais partout, ses candidats ont été battus, notamment en région sud.
Oui, Thierry Mariani devancé de près de 15 points par le LR Renaud Muselier qui a notamment profité du Front Républicain après le retrait du candidat de gauche, ce dont il s'est félicité hier soir.
Cette victoire, c'est la victoire de toutes celles et de tous ceux qui sont allés voter aujourd'hui, souvent au-delà de leurs différences, de leurs appartenances politiques, philosophiques, sociales ou religieuses. Vous avez décidé de faire cause commune face au péril de l'extrême droite. Nous avons refusé la fatalité d'une région gouvernée par l'extrême droite. Cette décision, nous l'avons prise en conscience, au-delà des clivages politiques. Nous avons pris notre destin en main. Nous avons pris notre destin en main en dehors des appareils politiques.
Et si en PACA, l'abstention a baissé de 3 points entre les deux tours, elle n'en reste pas moins à des niveaux préoccupants. Hier encore, 2 électeurs sur 3 ne se sont pas rendus aux urnes.
Un coup de semonce pour la démocratie, disait hier le président du Modem, allié de La République En Marche, François Bayrou, qui s'est aussi inquiété des résultats de la majorité. Les listes En Marche terminent dernière dans toutes les régions où elles s'étaient maintenues, sauf en Bretagne et en Guadeloupe.
Bonjour Louis Dragnel.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Résultat décevant donc pour le parti présidentiel. présidentielle. D'ailleurs, à l'Élysée, on va très vite tenter de passer à autre chose.
Oui, et en réalité, Emmanuel Macron a déjà commencé à tirer les premiers enseignements du scrutin. Tout d'abord, il est conscient que son parti, La République En Marche, ne fonctionne pas. Un parti qui ressemble plus à une armée de cliqueurs, comme l'a qualifié le sénateur François Patriat, c'est-à-dire des militants plus doués sur Internet que sur le terrain. Plusieurs noms, dont celui du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui a fait un sans-faute à son poste, sont évoqués pour remplacer Stanislas Guérini. Ensuite, le chef de l'État a l'intention de remanier son gouvernement autour du 5 juillet. Un réajustement technique, selon l'Élysée, pour faire sortir une petite dizaine de ministres jugés fatigués ou tout simplement pas au niveau. Un remaniement dont il sait par ailleurs qu'il aura peu d'impact dans l'opinion publique. Enfin, Emmanuel Macron veut montrer qu'il gouverne jusqu'au bout. Selon plusieurs de ses proches, il pourrait bien créer la surprise en annonçant un symbole, faire adopter la réforme des retraites avant 2022. Un pari audacieux, mais Emmanuel Macron sait que s'il ne surprend pas, il ne parviendra pas en 2022 à recréer l'enthousiasme des premiers jours.
Le décryptage de Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1.
Et ce retour de la réforme des retraites dans le débat, c'est l'autre grand sujet à la une ce matin. On va y revenir juste après ce journal avec Nicolas Barré.
Continuez de réformer donc et occuper le terrain. Ce sera l'après-scrutin d'Emmanuel Macron qui se rendra ce matin à Douai dans le Nord pour l'implantation d'une méga-usine de batteries électriques aux côtés du président réélu des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Ce sera sans doute l'une des images du jour.
Oui, et le chef de l'État qui recevra ensuite ce soir à Versailles des patrons venus du monde entier pour une nouvelle édition du sommet Choose France qui continue de faire le plein malgré un changement de calendrier, Carole Ferry.
Effectivement, oui, puisque 110 à 120 dirigeants de multinationales ont répondu présents aujourd'hui. Vous savez, l'idée au départ était de proposer aux grands patrons du monde entier de faire une halte à Versailles la veille de l'ouverture du Forum économique mondial de Davos en janvier. Eh bien, on voit aujourd'hui que Choose France n'a plus besoin de Davos, qu'il est devenu un événement à part entière. Oui, parce que c'est l'occasion de discuter en face à face avec d'autres patrons, mais également avec des ministres français, par exemple, qui ne manqueront pas cette année d'expliquer tous les avantages du plan de relance pour inciter à investir en France. On sait que seront présents par exemple le patron de Snapchat qui devrait faire une annonce, d'ArcelorMittal, de Moderna, d'AstraZeneca ou encore de JP Morgan. La banque américaine inaugure demain ses nouveaux bureaux parisiens. Ce sera l'occasion pour Emmanuel Macron de montrer l'attractivité post-Brexit de la France dans le monde de la finance. Au total, une vingtaine de projets d'investissement en France devraient être présentés aujourd'hui pour un montant total de 3,5 milliards d'euros et 7 000 emplois.
Les précisions de Carole Ferry pour Europe 1.
Erreur judiciaire ou juste condamnation. Le meurtrier présumé de Patricia Bouchon est rejugé à partir d'aujourd'hui en appel à Albi.
Il y a deux ans, Laurent Desjean était condamné à 20 ans de réclusion alors que le parquet général avait demandé l'acquittement, une condamnation que la famille de la victime, une joggeuse retrouvée morte près de Toulouse quelques jours après sa disparition en février 2011, espère voir confirmée. Benjamin Péter est le correspondant d'Europe 1 en Occitanie.
Pour Sandra Damiano, ça ne fait aucun doute. C'est bien Laurent Desjean qui a enlevé sa sœur alors qu'elle faisait son jogging à 4h du matin. Mais elle espère que ce procès en appel lui permettra de s'expliquer sur le déroulé de cette nuit.
On attend quelque chose de lui, peut-être qu'une émotion viendra, enfin de la compassion peut-être, ça serait bien. Qu'il nous dise réellement ce qui s'est passé. Nous, on a plein de questions et puis les réponses, elles viennent jamais. Et puis aussi peut-être pour le soulager lui, mais pour soulager aussi surtout les familles.
Fait rare, en première instance, l'avocat général avait demandé l'acquittement, estimant qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour condamner Laurent Desjean. Les jurés avaient malgré tout prononcé une peine de 20 ans et pour son conseil, maître Karim Chebani, ce procès en appel doit permettre de corriger ce qu'il estime être une erreur judiciaire.
Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de choses déterminantes. Personne ne peut sérieusement se lever ici et venir dire « j'ai la certitude que ce monsieur a accompli un meurtre ». Ça n'est pas vrai. Donc à partir de là, il faut appliquer la loi. C'est une position très simple, mais elle est impérative. Et malheureusement, je dois dire qu'en première instance, on ne peut faire que ce constat. La loi a été violée.
Et ces deux semaines devant la cour d'appel d'Albi devraient permettre de mieux comprendre les déclarations ambiguës en garde à vue de cet homme et sur sa voiture que des témoins disent avoir vue sur le lieu de l'enlèvement. Les principaux indices qui avaient conduit à sa condamnation. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Le nord du continent américain continue de suffoquer jusque dans les territoires arctiques. Au Canada, des alertes ont été émises dans plusieurs provinces. Le record absolu de température a été battu, 46 degrés 6 enregistrés.
Rendez-vous ce soir à 21h, l'équipe de France de foot face à la Suisse en 8e de finale de l'Euro. Un match que l'on suivra bien sûr en direct sur Europe 1, émission spéciale dès 20h.
Cet Euro qui a vu une start-up française, Sorare, nouer un partenariat avec la Fédération Française de Foot pour développer en quelque sorte des cartes Panini 2.0. On risque de plus pouvoir se les échanger aussi facilement. Explication avec vous, Clément Le Saffre.
Oui, en fait, ces cartes, ce sont des NFT, des objets numériques authentifiés par la blockchain. C'est la technologie qui soutient le Bitcoin et empêche toute copie frauduleuse. Chaque carte est donc unique. On les acquiert à l'unité ou par pack. Brian O'Hagan est responsable du développement de Sorare.
Les cartes sont mises en vente sous format d'enchères. Donc, au final, ce sera celui qui va enchérir le plus qui gagnera la carte. Et une fois qu'on possède une carte, on peut l'utiliser dans un jeu vidéo, un jeu de fantasy football. Et puis, on peut également revendre la carte si l'on souhaite. Et ça, l'avantage par rapport à une carte Panini, c'est qu'on peut revendre ces cartes à qui que ce soit dans le monde.
Alors, une condition quand même, y mettre le prix. Le minimum est de 4 euros pour des cartes de joueurs moyens et ça monte jusqu'à plusieurs centaines, voire milliers d'euros pour les stars ou les cartes en édition limitée. On constitue ensuite son équipe pour affronter d'autres joueurs en ligne. Sorare compte aujourd'hui 90 000 aficionados et les footballeurs eux-mêmes se sont pris au jeu. Antoine Griezmann a déboursé 63 000 euros pour acheter une carte spéciale de son coéquipier en bleu Kylian Mbappé. Et ce n'est même pas un record. En mars, une carte de Cristiano Ronaldo s'était vendue 240 000 euros.
Bon, c'est pas tout à fait le même budget. Cela dit, Cristiano Ronaldo et son équipe ont éliminé hier le Portugal sorti par la Belgique et puis les Pays-Bas également sorti par la République tchèque. Attention quand même aux surprises pour les Français.
Merci beaucoup Marion Calais, c'était le journal de 7h. Tiens, on reste dans le sport. Désormais tous les matins, le journal du Tour et c'est avec vous Marguerite Lefebvre. Bonjour Marguerite.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le Tour de France, vous êtes sur les routes. Marguerite, on commence avec le son du jour.
Et c'est une voix que je vais vous faire écouter ce matin, une voix que vous allez peut-être reconnaître. Nous sommes en 2014 sur le Tour de France et à l'époque, Raymond Poulidor, qui nous a quittés depuis, évoquait déjà le talent de son petit-fils.
Tout le monde est surpris, le papy aussi. Je crois qu'il est plus fort que le papy et plus fort que le papa. Alors c'est peu dire.
Et Poupou avait raison, puisqu'hier, son petit-fils Mathieu Van Der Poel, 26 ans, a époustouflé tout le monde. L'histoire est belle, puisque pour son premier Tour de France, il s'offre ce que son grand-père n'a jamais réussi à obtenir dans toute sa carrière, le maillot jaune. Van Der Poel est allé l'arracher au sommet de Mur de Bretagne. Impressionnant, selon Julien Jourdi, le directeur sportif d'AG2R La Mondiale.
C'était vraiment épatant de voir Mathieu. On s'est dit, c'est clair qu'il a envie de maillot jaune. C'est incroyable, j'ose même pas imaginer le plaisir d'avoir un coureur comme celui-ci dans l'équipe. Ça a l'air tellement facile le vélo. Nous, on souffre tellement derrière que ouais, c'est compliqué.
Alors hier, Mathieu Van Der Poel, qui est néerlandais par son père, coureur lui aussi, Mathieu Van Der Poel a chippé le maillot jaune à Julien Alaphilippe, qui est désormais deuxième au classement général.
L'étape du jour, Marguerite, devrait être un peu plus calme.
Oui, on va retrouver des routes moins difficiles. Cette troisième étape, Lorient-Pontivy, pourrait s'achever au sprint. Côté français, l'une des chances, c'est Arnaud Démare qui se méfie toutefois des derniers kilomètres.
C'est un final très tortueux, assez étroit. Il faudra vraiment être vigilant en plus avec l'approche en descente justement dans les trois derniers kilomètres. Il y a de la place pour moi, donc un Tour de France réussi, voilà, ça serait déjà commencer par une victoire et après on verra par la suite.
Et avant de lever les bras, il faudra pédaler. Donc tout à l'heure, 182 km dans le Morbihan, départ de Lorient à 13h10.
Merci Marguerite Lefebvre, c'était le journal du Tour, il est 7h13.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
À 7h40, de la politique au cinéma, une comédie ce matin, Président au pluriel, qui sort mercredi, Jean Dujardin en Nicolas Sarkozy, Grégory Gadebois en François Hollande, une fiction, une farce, on va en parler avec eux dans le tête-à-tête Europe Matin. Mais tout de suite, l'éclairage éco avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
La réforme des retraites est-elle en train de revenir? Selon vos informations, Nicolas, l'Élysée envisage de reporter l'âge de la retraite à 64 ans.
Bah écoutez, oui, le sujet est sur la table. Selon les informations des Échos, l'Élysée pourrait frapper un grand coup en décidant de repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans, même si bien sûr cette réforme n'entrerait en vigueur qu'après la présidentielle. Ce report de l'âge de la retraite pourrait être soumis au vote du Parlement dès le mois d'octobre dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce serait donc une décision politique très forte.
Oui, ça arriverait très vite, ce qui explique qu'elle fasse encore débat.
Alors oui, évidemment, il y a les pour et les contre. Dans le camp des contre, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, et bon nombre d'élus En Marche. Parmi les pour, Bruno Le Maire, Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, mais aussi Alexis Koller, le secrétaire général de l'Élysée. Et puis enfin, Jean Castex est, disons, entre les deux. Une telle mesure est a priori coûteuse politiquement, mais elle aurait au moins trois avantages. D'abord, montrer que le président est toujours capable de réformer, ce pourquoi il a été élu en 2017. Couper l'herbe sous le pied d'une droite renforcée par le résultat des régionales. Et enfin, ça n'est pas rien, dégager des économies après une furieuse périlleuse période de dépenses. Ce serait clairement la preuve que le président n'oublie pas la nécessité de rétablir un jour les comptes publics.
Alors concrètement, Nicolas, quel est le scénario de réforme envisagé ?
Ah bien, si le président donne son feu vert, l'âge de la retraite serait reculé de 6 mois en 6 mois. La première génération concernée serait celle née en 1961, pour laquelle l'âge d'ouverture des droits passerait à 62 ans et demi en 2022-2023. Et ainsi de suite pour les trois générations suivantes, ce qui fait que l'âge de départ à 64 ans s'appliquerait à celles et ceux nés en 1964. Il est bien sûr prévu des exemptions et des parts anticipées pour les carrières longues. Et puis enfin, le minimum de pension serait bien revalorisé à 1000 euros comme prévu. Alors, vu l'état des comptes du régime de retraite lourdement déficitaire, cette réforme se justifie. Bien d'autres pays en Europe ont déjà repoussé l'âge légal au-delà même de 64 ans. Reste à en peser la prise de risque politique et sociale qu'elle comporte, les partenaires sociaux étant notoirement hostiles à la réforme dans un calendrier aussi serré.
Merci Nicolas Barré, on va suivre évidemment de très près cet autre grand sujet à la une ce matin, le retour de la réforme des retraites. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Il est 7h15, le regard international avec Didier François. Bonjour Didier.
Bonjour.
Vous avez suivi pour nous, Didier, le tout premier discours public de Donald Trump depuis son éviction de la Maison Blanche, c'était le 20 janvier dernier. Un meeting comme il les affectionne, devant des milliers de supporters totalement surexcités.
Joe Biden est en train de détruire notre nation sous nos propres yeux. La priorité numéro un pour tous ceux qui veulent sauver les États-Unis, c'est de déverser chaque once d'énergie que vous avez pour remporter une gigantesque victoire lors des élections de mi-mandat, puis en 2024.
Et oui, vous l'entendez, c'est bien le grand retour de Donald Trump, le battleur, le tribun, le bulldozer des campagnes électorales, qui sort de sa retraite et n'a rien perdu de sa pugnacité. C'était samedi soir dans l'Ohio, devant une marée de militants en liesse et remontés comme des coucous, ravis d'avoir enfin reconnecté avec leur leader, prêt à tous les combats pour sauver l'Amérique. C'est le nouveau slogan du chef qui se décline sur les pancartes, les t-shirts, les casquettes.
Ah oui, déjà.
Ses partisans, exactement, sont convaincus et ils exultent d'ailleurs quand Donald Trump le martèle que Joe Biden mène le pays à sa perte, qu'il capitule devant les intérêts économiques chinois, que des hordes de migrants submergent la frontière mexicaine. Ils sont toujours persuadés que la dernière élection présidentielle leur a été volée par les élites démocrates qui manipulent la presse et n'ont pas hésité à utiliser l'épidémie du Covid pour couvrir ce complot. C'est bien cela qu'est venu leur dire dans les yeux de Donald Trump, privé de réseaux sociaux pendant 2 ans par les géants de l'Internet, mais que rien ne peut débrancher de cette base électorale qui se presse au pied de son estrade pour l'acclamer comme on ovationne une rockstar, un gourou ou un prédicateur. Et c'est bien là qu'on ressent toute la puissance du verbe de Donald Trump, capable d'électriser une foule jusqu'à ce qu'elle prenne d'assaut le Capitole, attaque qu'il n'a jamais condamnée.
En revanche, il s'en est pris violemment aux élus républicains qui ont voté en faveur de sa destitution.
Et oui, et avec quelle vigueur. Ils ont été littéralement voués aux gémonies, dénoncés comme des traîtres. Le meeting de l'Ohio, d'ailleurs, était convoqué pour soutenir un fidèle de Donald Trump qui se présente contre l'élu sortant, républicain certes, mais qui a osé voter cette mise en accusation après l'assaut contre le Capitole. Donc Donald Trump entend écarter de toute responsabilité le moindre élu républicain coupable de ce crime de lèse-majesté. C'est le fondement de sa stratégie de reconquête de la Maison-Blanche. D'abord épurer le vieux parti républicain, puis ensuite regagner la majorité du Sénat à l'occasion des fameuses midterms qui renouvelleront d'un tiers les sièges de cette Assemblée en 2022, sachant qu'il lui faut juste basculer un siège pour être en position de bloquer toutes les réformes de Joe Biden et puis ainsi paralyser l'exécutif pendant 2 ans, ce qui le placerait alors en position potentielle d'être réélu à la Maison-Blanche en 2024. C'est son unique obsession, la promesse d'une revanche pour une défaite qu'il n'a jamais digérée.
La campagne est lancée,
c'est
presque, si on pouvait dire ainsi. Didier François, merci beaucoup. Le regard international, il est 7h19. Dans un tout petit instant, l'édito sport, Virginie Fulpin, et juste après, notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Du bruit dans le landerneau. D'où vient cette expression ?
Du landerneau.
La réponse dans un instant, à tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h21 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin, et vous l'attendez ce matin évidemment. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les Bleus affrontent la Suisse ce soir, c'est à Bucarest, 8e de finale de l'Euro. Deux adversaires qui se connaissent bien, hein. France-Suisse, 38 rencontres Ah oui, ils ont déjà joué 38 fois l'un contre l'autre. Deux pays qui abordent ce match de manière diamétralement opposée. Pour vous, ce France-Suisse, c'est l'histoire d'une rivalité que les Suisses sont les seuls à voir.
Bah, quand on pense à cette affiche France-Suisse, il y a deux possibilités. Soit on réprime un bâillement en pensant à cette litanie de 0 à 0 qu'elle nous a généreusement offert dans l'histoire. Ou alors on sourit en se rappelant...
Il y a eu des partout aussi, je crois.
Oui, oui, c'est vrai. J'exagère un petit peu. Parfois, il y a eu un but. Pas de suspense, mais un but. Ou alors on sourit en se rappelant la victoire des Bleus 5 à 2, là, en ouverture de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, quand Karim Benzema et Olivier Giroud, déjà eux, avaient tous les deux marqué un but. C'était quand le quotidien suisse Le Matin avait titré « Plumer ce coq » en une, le jour du match. Ouais, les Suisses en ont un peu ras-le-bol de ce voisin bleu prétentieux, encombrant et sans gêne, qui leur accorde à peine un regard. Et les Français sont fidèles à leur réputation de condescendance en n'ayant que faire de cette rivalité à sens unique. Si l'équipe de France doit avoir un concurrent parmi ses voisins en partie francophone, c'est la Belgique, pas la Suisse. On ne se gêne pas pour charrier les Belges depuis 2018, quand les Bleus les avaient battus en demi-finale de la Coupe du Monde et que leurs adversaires en avaient conclu que ça n'était pas la meilleure équipe qui avait gagné. On appelle ça le seum et ça fait 3 ans que ça nous fait rire. Mais alors la Suisse, de ce côté-ci des Alpes, on n'y prête franchement pas attention. On se demande plus si l'hôtel des Bleus à Bucarest est vraiment assez confortable, si la canicule et les déplacements permanents dans cet euro éparpillé ne favorisent pas les blessures que comment battre la Suisse. Ce qui peut être énervant pour l'adversaire, reconnaissez.
Alors c'est normal aussi que les deux équipes n'abordent pas le match de la même manière.
Bah, si l'équipe de France se qualifie, on ne va pas en faire toute une histoire. On est champion du monde, oui ou non. Les Bleus font partie des favoris de l'Euro et ils regardent déjà plus loin que la Suisse. Mais si c'est la Nati, le petit nom de l'équipe helvète, qui l'emporte, ça va devenir l'exploit que les Suisses se raconteront fièrement de génération en génération.
On risque d'en entendre parler.
Ah, légèrement, cette équipe n'a qu'une envie, marquer l'histoire et ce match contre ce grand voisin insupportable en est l'occasion rêvée. Quand le capitaine suisse disait hier qu'il voulait punir la faiblesse des Bleus, il cherchait à entraîner tout le monde derrière lui. C'est le jeu de la communication d'avant-match. Mais dans la tête des Français, avant ce 8e de finale, la motivation c'est surtout de se dire qu'il n'y a pas de petites équipes. Regardez, la République tchèque a fait tomber les Pays-Bas hier. Ouais. Il n'y a pas de petites équipes, ça va encore énerver les Suisses, ça.
Merci beaucoup Virginie Fulpin, l'édito sport. Et puis évidemment, vous allez vivre ce match France-Suisse qui aura plein de buts, je vous le promets. Engageons-nous.
Enfin, de toute façon, ça ne pourra pas être un match nul.
Et puis de toute façon, exactement, il y aura un qualifié à la fin. Et soirée spéciale sur Europe 1, dès 20h, évidemment, le match en direct et en intégralité. À 7h24, on retrouve Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Quand ceux qui s'irritent des anglicismes disent qu'on ne devrait pas utiliser le mot buzz, mais plutôt ça va faire du ramdam et que personne n'est vraiment convaincu, eh bien, moi, je mets mon habit de diplomate, je propose à tout le monde cette formule, ça va faire du bruit dans le Landerneau.
Ah, c'est vrai que c'est une belle expression, Landerneau, c'est une vraie ville, hein, on va le rappeler, c'est dans le Finistère. Il y a un lien ou pas ?
Bon, je vous l'accorde Mathieu, le suspense est insoutenable. Mais oui, je vous confirme, il y a un lien. D'abord, rendons à César ce qui appartient à César. On tient l'explication de l'origine de l'expression à un comédien de la région, Sidney Bernard. C'est en 1996 qu'il découvre l'origine de « ça va faire du bruit dans le Landerneau ». Après moult recherches, il découvre que le 27 novembre 1796, on joue à la Comédie Française pour la première fois une pièce du dramaturge Alexandre Duval, Les Héritiers. Le pitch de cette comédie en un acte est simple. Un officier de marine réapparaît dans son village d'origine, Landerneau, alors que donné pour mort, on s'occupait déjà de sa succession et son valet de s'écrier « Oh, ben ça va faire du bruit dans le Landerneau !» L'expression est répétée. Et le succès de la pièce va pérenniser la formule. Alors, quand on dit succès de la pièce, ce qui est amusant de noter, c'est que l'auteur de la pièce est également doyen de la Comédie Française. Du coup, il programme régulièrement et en priorité sa propre pièce pour assurer son succès.
C'est pratique.
En Allemagne, aujourd'hui, on dit « cela va faire des hautes vagues ». On l'oublie parfois, mais vous savez, il y a la mer en Allemagne, hein, la mer Baltique, la mer du Nord. En Argentine, on dit « eso va levantar mucha polvareda », ça va soulever de la poussière. Et enfin, chez nos amis néerlandais, on préfère l'expression « ça va faire beaucoup de tam-tam ». Bah, ce qui ressemble un peu à notre fameux « ça va faire du ramdam ».
Bien sûr. On vous retrouve à 16h tout à l'heure, c'est historiquement vôtre.
Oui, on réunit le peintre surréaliste René Magritte, le cinéaste de génie Jacques Tati et son héros délicieusement suranné, M. Hulot, qu'il a lui-même incarné, et Dominique Strauss-Kahn. Leur point commun ? Bah, nom d'une pipe. Leur nom reste à jamais associé à la pipe.
7h26, à tout à l'heure 16h donc Stéphane, Mathieu Noël, dans un instant Laurent Cabrol pour la météo et un nouveau journal avec Sophie Echard. 7h29 sur Europe 1, c'est Laurent Cabrol qui est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Quel ramdam dans le ciel en ce moment, quel ramdam.
On a du mal à suivre. Hein.
Parce que, bah non, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'orages malheureusement, on en sourit, mais ils sont toujours très très dangereux. Ils sont particulièrement dangereux aujourd'hui dans le Cantal, le Puy-de-Dôme, le Cher et la Nièvre. Ce sont des départements à haut risque et placés en vigilance. Et de toute manière, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, la Bourgogne, l'Auvergne, dans son ensemble, les Cévennes, et seront et sont touchés déjà. Et gagnent la région Rhône-Alpes, la Lorraine, l'Alsace et la vallée du Rhône. Alors que les choses soient claires, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'orages. Les orages seront plutôt présents cet après-midi, puisque c'est les températures qui vont guider leur formation. Sur la Loire-Atlantique, la Vendée, de la pluie aussi actuellement. Ensuite, la Bretagne, la Normandie, le Poitou-Charentes et le milieu massif pyrénéen seront concernés aussi par la pluie, avec des éclaircies fugaces sur le Nord, la Picardie, la Champagne, et la région parisienne. Voilà, j'espère avoir été clair. Sinon, je répéterai dans une demi-heure.
On vous retrouve toutes les demi-heures de toute façon. Merci beaucoup.
Et puis les températures entre 20 et 27 degrés. Pardon pour.
Ah oui, non, mais j'avais oublié les températures. 20-27 degrés.
Oui, 20-27 degrés.
Et puis quand il y aura l'orage, ça tombera d'un coup.
Oui, ça,
normalement.
C'est vrai.
Merci Laurent. Il est. Tiens, Sophie Echen est avec nous au studio. Bonjour Sophie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Il est 7h30, un nouveau journal.
On connaît les points forts et les points faibles de la France. On veut punir leur faiblesse. Ce sera un match pour écrire l'histoire. L'enjeu est grand, mais on n'a pas peur des Bleus.
Les Suisses gonflés à bloc à quelques heures de leur match contre la France en 8e de finale de l'Euro. Les Bleus favoris vont devoir se méfier de leur adversaire. Dans ce journal, le revers du Rassemblement National qui ne remporte aucune région et les résultats contrastés de la gauche qui conserve, elle, ses 5 régions avec des stratégies différentes. Et puis la suite du procès de l'affaire Troadec avec l'audition très attendue aujourd'hui de l'accusé.
Juste après ce journal, la touche. C'est le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Le tête-à-tête Europe Matin avec Jean Dujardin et Grégory Gadebois à l'affiche du film Président d'Anne Fontaine. L'édito politique Nicolas Bétou.
Le second tour des élections régionales a fait 2 perdants, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et les scénarios en prévision de 2022 sont donc bouleversés.
Et puis enfin avant 8h, Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Sonia Mabrouk reçoit Dominique Régnier, le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, il est 7h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et les choses sérieuses commencent ce soir pour les hommes de Didier Deschamps. L'équipe de France affronte la Suisse en 8e de finale de l'Euro à Bucarest. Derrière eux, environ 1500 supporters français dans les gradins. Les Bleus partent favoris malgré quelques difficultés ces derniers jours, blessures et forte chaleur en Hongrie. Mais Cyril de la Morinerie, les Français ont tout de même pu se rafraîchir hier soir.
Oui, c'est un petit cadeau du ciel très apprécié par les joueurs de l'équipe de France. Hier soir, au moment d'entrer sur la pelouse du stade national de Bucarest pour l'entraînement, un orage a éclaté et la pluie a apporté un peu de fraîcheur. Voilà de bien meilleures conditions qu'en Hongrie. Tant mieux car ce soir, c'est un match couperet. Les Bleus devront, face à la Suisse, contre lesquels ils sont invaincus depuis 29 ans, être irréprochables, affirme le capitaine Hugo Lloris.
La réponse, c'est celle des joueurs. En mettant l'énergie nécessaire, en mettant la discipline qu'il faut et en faisant les efforts pour écrire notre histoire et créer la réussite.
Mais la Suisse, 13e au classement FIFA, ne l'entend pas de cette oreille. Le capitaine helvète Granit Xhaka ne tremble pas face aux champions du monde.
On connaît les points forts et les points faibles de la France. On veut punir leur faiblesse. Ce sera un match pour écrire l'histoire. L'enjeu est grand, mais on n'a pas peur des Bleus.
La Suisse, qui n'a plus atteint les quarts de finale d'un grand tournoi depuis 1954, est donc très motivée. Mais la France, malgré quelques pépins physiques et une défense probablement remaniée, reste évidemment favorite de cette rencontre.
Cyril de la Morinerie, on vous retrouvera au commentaire du match ce soir. Coup d'envoi 21h, soirée spéciale dès 20h sur Europe 1. A noter aussi la qualification de la Belgique en quart de finale après avoir battu le Portugal 1-0.
À la une aussi, bien sûr, les élections régionales et la déroute du Rassemblement National.
Mais pas une seule région pour le parti d'extrême droite. La seule dans laquelle le RN était arrivé en tête à l'issue du premier tour, Provence-Alpes-Côte d'Azur, a finalement vu Thierry Mariani se faire balayer par le président sortant, Renaud Muselier. La présidente du parti, Marine Le Pen, s'est exprimée hier soir et elle n'a pas prévu de baisser les bras.
Ce soir, nous ne prendrons pas de région puisque des sortants à l'aide d'alliances contre nature ont tout fait pour nous empêcher de montrer aux Français notre capacité à diriger un exécutif régional. La progression très importante entre les deux tours en PACA, qui reste tout de même insuffisante pour offrir la victoire, démontre que la mobilisation est la clé des victoires à venir. Je suis plus que jamais déterminé à mettre toute mon énergie et ma volonté à réhabiliter la politique, à lui rendre son utilité et son efficacité, parce que la présidentielle apparaît plus que jamais comme l'élection qui permet de changer de politique et de changer les politiques, et que les Français nous apportent leur soutien dans cette mission. Je donne rendez-vous aux Français dès demain pour construire tous ensemble l'alternance dont la France a besoin.
Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National. La droite, elle, sort victorieuse avec ses 7 présidents sortants réélus, notamment les prétendants à la présidentielle. Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, Valérie Pécresse en Ile-de-France et Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis à gauche, le Parti Socialiste conserve ses 5 régions.
Bonjour Hélène Terzian.
Bonjour.
Pour la gauche, l'un des débats de la campagne, ça a été union ou pas. Alors, quel bilan est-ce qu'on peut en tirer ?
Eh bien, dans 3 régions sur 5, le PS a gagné et parfois triomphé sans faire union. En Occitanie, Carole Delga a été réélue avec près de 58% des voix. C'est la présidente sortante la mieux élue, et ce alors qu'elle n'a pas trouvé d'accord avec les écologistes. Même schéma en Nouvelle-Aquitaine, où Alain Rousset repart pour un 5e mandat. En Bretagne, Loïc Chesnais-Girard l'emporte d'une courte tête. Là encore, sans Europe Écologie Les Verts. Dans 2 autres régions, l'union avec les écologistes a été payante. En Bourgogne-Franche-Comté, avec la réélection de la présidente sortante, Marie-Guitte Dufay, et en Centre-Val-de-Loire, pour François Bonneau. À noter que des listes d'union de la gauche l'ont aussi emporté en Guyane et à La Réunion.
Mais alors, cette union n'a pas fonctionné partout.
En Ile-de-France d'abord, l'alliance derrière l'écologiste Julien Bayou, rallié par les socialistes et les insoumis, n'est pas parvenue à ravir la région à la droite. Dans les Pays de la Loire, où l'espoir était permis, derrière l'écologiste Mathieu Orphelin, ça n'a pas marché non plus. Échec enfin dans les Hauts-de-France, malgré une liste de la gauche unie dès le premier tour derrière la candidate d'Europe Écologie Les Verts, Karima Delli.
Alors Hélène, quels enseignements peut-on en tirer pour 2022 ?
Eh bien, la gauche n'a toujours pas de formule magique. Chacun campe sur ses positions. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, on met en avant un ancrage renforcé avec une progression en voix et en pourcentage. On estime être la seule force en dynamique. Et côté PS, eh bien, on se voit comme la seule force motrice. Le premier secrétaire du parti, Olivier Faure, qui n'était pas réticent à se ranger derrière un écologiste, a déclaré hier soir que le PS avait, je cite, le devoir de rassembler l'ensemble de la gauche et des écologistes pour 2022.
Et décryptage d'Hélène Terzian du service politique d'Europe 1.
La suite du procès du meurtrier présumé de la famille Troadec, tué en 2017 près de Nantes.
Après avoir vu sa personnalité passer au crible les jours précédents, Hubert Caouissin va donner sa version des faits. Son avocat, maître Patrick Larvor, revient sur les premiers jours d'audience et les débats cruciaux qui vont suivre.
Il y a des moments où il est plus concentré que d'autres. Maintenant, il a eu plusieurs moments d'émotion. Ça démontre quand même, en tout état de cause, qu'il n'est pas insensible à ce qui s'est passé pendant cette première semaine. C'est vrai que quand on voit les faits qui lui sont reprochés, sont dramatiques. Et on a eu l'occasion de parler de monstres. Là, au moins, on a la perception d'un homme, non pas d'un monstre. Monsieur Caouissin a toujours eu à cœur de s'expliquer devant les enquêteurs, que ce soit devant la police ou devant le juge d'instruction. Et il a toujours indiqué d'ailleurs qu'il souhaitait, à l'occasion de ce procès, il soit écouté et entendu. Et
il dit simplement que lorsqu'il est arrivé à Orvault, il n'était pas arrivé pour tuer tout le monde. C'est aussi simple que ça, c'est tout ce qu'il dit en tout cas.
Maître Patrick Larvor avec Charles Guyard. Et puis une pensée pour les plus de 860 000 collégiens qui vont plancher sur le brevet. Ça commence aujourd'hui et ce sera jusqu'à demain.
Merci beaucoup Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1. Il est 7h37.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un tout petit instant, Jean Dujardin et Grégory Gadebois sont les invités du tête-à-tête Europe Matin. On va parler de politique aussi finalement, mais avec le sourire. Les deux acteurs jouent le rôle de Nicolas Sarkozy et François Hollande dans le film Président qui sort mercredi. Mais d'abord, la touche âme, c'est Bertrand Chameroy et son regard décalé sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, un spectaculaire accident s'est produit ce week-end. Je ne parle pas du RN et de la République en marche au régional, mais du Tour de France.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h40 sur Europe 1, c'est l'heure de la touche âme, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, ce matin on parle cyclisme. Alors que Béliard entre dans les derniers kilomètres qui le séparent de l'arrivée, il est fatigué, mais le mental est toujours là, regardez, oh là, il a le sourire, il continue de tout donner jusqu'au bout. Quelle leçon de sport, quelle leçon. Oui, amis auditeurs, je vous rappelle que c'est la grande semaine folle sur Europe 1 vendredi, tout doit disparaître, dernier inventaire avant l'utilisation, alors on en profite. Mais revenons au Tour de France. Le coup d'envoi a été donné ce week-end et nous tenons déjà le maillot jaune de la crétinerie. C'était samedi à 50 km de l'arrivée de la toute première étape au sommet de la côte de Saint-Rivoal. Une spectatrice tenait une pancarte « Allez papy mamie » écrite en allemand. Elle était beaucoup trop avancée sur le bitume, ne regardait pas ce qui arrivait derrière puisqu'elle était trop occupée à saluer les caméras avec un air ravi. Ça ne pouvait que bien se terminer. Elle a fait chuter Tony Martin et avec lui des dizaines d'autres coureurs. Un gros carambolage, c'était domino day à vélo. Comme quoi, hein, Mathieu, il suffit qu'une seule personne se mette en travers de la route sans regarder les équipes pour que des dizaines de personnes tombent. Toute ressemblance avec des événements, etc. etc. Alors, non contente de ne pas cette futée, cette spectatrice est également très téméraire, puisqu'elle a, après avoir foutu la course en l'air, elle a pris la fuite. Ce qui est d'une logique implacable, hein, après avoir montré sa tronche dans une compétition retransmise sur 80 chaînes dans 190 pays, il y a juste 4 milliards de témoins, mais tu prends la fuite. Elle pensait s'en sortir comme ça, avec un petit c'était oublier l'existence de... La gendarmerie du Finistère, qui dans le cadre de l'enquête judiciaire a lancé un appel à témoins sur sa page Facebook afin de retrouver la spectatrice. Je cite, « La spectatrice à l'origine de l'accident était porteuse de lunettes, vêtue d'un jean bleu et d'une veste jaune genre ciré. » Souhaitons donc bon courage à la gendarmerie du Finistère qui se lance à la recherche d'une personne en ciré jaune en Bretagne. Ça s'annonce facile. Hein. Nous recherchons activement un individu muni de deux bras et deux jambes, porteur de chaussures et amateur de beurre de micelle. Elle est là ! Ah non ! C'est elle ! Ah, encore raté ! Alors, il y a une petite précision dans l'avis de recherche qui permettra peut-être d'accélérer l'enquête. Je cite... Elle tient une pancarte supportant l'expression « Allez au pied, au mi ». Elle tient une pancarte, comme si la dame se baladait en permanence avec son carton à la main. Comment vous l'avez retrouvée ? C'est un monsieur qui a trouvé sa trace dans une boulangerie, elle a acheté du kouign-amann avec son ciré jaune et sa pancarte à la main. L'enquête rondement menée. Chouchène ? Chouchène. Bonne recherche aux gendarmes du Finistère, bon Tour de France aux amateurs et bonnes dernières étapes à vous, Mathieu, mon champion.
C'est un peu les régionales encore.
C'est ça.
Avec vous. Ah, genre ciré. On rigole pas avec le ciré là-bas, vous l'aurez bien compris. Merci Bertrand Chameroy, on vous retrouve à 10h.
Oui.
Avec Philippe Vandel dans Culture Média. A tout à l'heure, 7h43.
Europe Matin, le 7-9.
C'est une matinale très politique, hein, finalement, y compris lorsqu'on parle de cinéma. Président, au pluriel, sort en salle mercredi dans cette comédie d'Anne Fontaine. Jean Dujardin joue Nicolas, un ancien président qui pense que pour faire barrage à l'extrême droite, Marine Le Pen, il doit s'allier à Grégory Gadebois qui joue, lui, un ancien président reclus en Corrèze et qui s'appelle François. On rit, on les reconnaît, bien sûr. On en parle ce matin. De prestigieux invités aujourd'hui, Grégory Gadebois et Jean Dujardin.
Le tête-à-tête.
Mathieu Béliard.
Jean Dujardin, Grégory Gadebois, bonjour.
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 Alors d'abord, et d'un mot, c'est un film d'une incroyable actualité. On est au lendemain d'un scrutin et là, on a une réflexion sur le Front républicain.
Pas fait exprès, hein. C'est le hasard. Hein. Il y avait de quoi dire, enfin, il y a de quoi rire en tout cas.
Alors, ils sont comment, les ex-présidents dans ce film ? On les sent au départ dans une petite forme de dépression.
Une petite déprime, on va dire. Peut-être pas une dépression, mais enfin, en tout cas, un petit vague à l'âme.
Il passe l'aspirateur, quand même.
Une petite solitude, on va dire. Ouais, un petit circuit fermé. Il y a une solitude, forcément. Il y a une envie d'y retourner, sûrement. Oui. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas simple, je suppose, d'avoir été un président pendant 5 ans. On est sur le toit du monde, on est, ou du moins le toit de la France. Il y a une espèce de verticalité qui reste et qui colle. Et à mon avis, ça doit être très, très difficile de d'en revenir.
Et vous, c'est de la moquerie ?
Je sais pas. Non, je pense pas que ça soit de la moquerie. C'est des personnages, en tout cas, c'est des personnages de comédie. Et on peut s'amuser avec eux, comme on peut les malmener, comme on peut les réparer quand il le faut. En fait, il y avait plusieurs strates dans cette proposition de comédie. En fait, elle est à la fois parfois très mécanique, même assez potache, et puis parfois assez cinglante et assez réaliste. C'est ce qui fait sa singularité, je suppose.
Ouais. Alors, on rit beaucoup, hein, faut le rappeler, bien sûr. Mais si je vous posais la question sur la moquerie, c'est que je voulais vous demander si vous êtes dans le registre de l'imitation, de l'inspiration. Alors, d'ailleurs, c'est peut-être pas forcément la même réponse pour vous deux, hein, Grégory Gadebois.
C'est pas vrai. C'est pas. Alors, je crois qu'on est assez d'accord sur le fait que c'est pas du tout une imitation. On n'a pas du tout cherché à imiter, à rendre compte de quoi que ce soit. On s'est inspiré de... on fait deux anciens présidents, il y en a deux qui existent. Bon, alors on les a regardés un peu, puis c'est plus ça, quoi.
Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, sur le personnage de Nicolas, je parle plus de détournement. C'est-à-dire que je prends la figure, et puis je lui fais un peu les poches, et je prends ce qui m'intéresse. Mais c'est pareil, c'est selon les séquences. Il y a des choses aussi fantasmées, évidemment. Je ne le connais pas dans l'intimité, donc j'invente. Mais je peux voir aussi qu'il y a deux voies, parfois. Il y a cette voie d'homme public, cette voie politique, et puis il y a cette petite voie qui essaie d'être un peu plus proche des autres. Alors, c'est assez intéressant de s'amuser avec les deux, quoi. Et parfois, sur des séquences de meeting, par exemple, là, on est carrément, effectivement, ouais. on est pas loin de l'imitation, mais parce que le film, finalement, demande ça. On demande aux gens de faire un aller-retour entre le réel et la fable. Si ça se passe bien, on peut passer un bon moment.
Oui, la fable, alors vous l'avez appelée Nicolas, c'est Nicolas et François, on fait pas semblant. Nicolas Sarkozy et François Hollande, on va les nommer quand même une fois dans l'interview. Ils sont au courant, je veux dire, on l'était tous, hein, mais est-ce qu'ils ont vu le film ?
Je sais que alors, François Hollande l'a vu, et il a beaucoup aimé. Mmh. Et voilà.
Nicolas Sarkozy, pas encore, je crois. D'accord. Je ne sais pas s'il a envie, s'il n'a pas envie, peut-être qu'il n'est pas prêt. Mais enfin, ça fait pas mal. Hein.
Non. Et d'ailleurs, ça fait pas de mal de ramener ces grandes figures de l'État à leur côté, comment dire, plus simple, presque plus franchouillard. Ça leur fait du bien, à leur image même.
C'est peut-être ça finalement qui fait. Parce que moi, c'est ce que je me suis dit. D'ailleurs, pourquoi je me suis dit à la fin du film, pourquoi je me sens bien ? Il y a un truc, je me sens bien. Et c'est peut-être ça, en fait. C'est que d'un coup, on les a rendus un peu plus mortels. C'est possible. Le fait d'avoir d'ailleurs créé cette histoire en Corrèze, on leur a fait finalement la même histoire à Paris, c'était pas la même.
Ouais. Et d'ailleurs, de gauche, de droite, peu importe, hein, qu'on les aime ou pas, d'ailleurs, ça aurait pu être des Chirac, des Mitterrand. Finalement, ce sont des hommes qui font partie de la famille.
Bah, c'est presque, on va pas dire l'histoire, mais effectivement, oui. c'est, mais un peu grâce à vous, messieurs les journalistes, vous en avez fait aussi les choux gras. Maintenant, on attend aussi un peu les débats entre deux tours. On les attend un petit peu comme des finales de la Coupe du Monde. C'est devenu des personnages plus que publics. C'est devenu, c'est comme une BD en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un dessin satirique en fait. On reconnaît le trait, vous voyez, et puis derrière, à l'intérieur, il y a de la place pour la fantaisie et le fantasme.
Oui.
On n'est pas dans le biopic, on est, oui, on est dans une fable avec du vrai dedans, peut-être. Moi, ce qui m'amuse, c'est justement, c'est de détourner. C'est un peu ce que j'ai fait, par exemple, avec les OSS sur le premier OSS. C'était un détournement des Sean Connery. Bon, ben là, c'est pareil. On prend une figure politique et puis on le détourne et on s'amuse avec ce genre-là.
Et on aura l'occasion de reparler des OSS très prochainement. Jean Dujardin, on vous a pas proposé René Coty ?
On m'a pas proposé René Coty, non. Alors, mais je ferai peut-être Chirac un jour, hein.
Qui sait ? Qui sait ? Alors, on ne se moque pas, on a compris. Quand même, il y a de la caricature.
Oui, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime le plus. C'est singer, c'est grossir des traits. Ce n'est pas certainement pas faire ça pendant une heure et demie, sinon c'est indigeste. Mais c'est vrai que selon les séquences, on a de la place dans ce genre de comédie pour aller aussi pour aller grossir les traits. Ouais.
Vous avez tous les deux travaillé, Jean Dujardin, Grégory Gadebois, sur le J'accuse de Polanski. Je voulais vous poser une question plus large. C'est une matière particulière à travailler, l'histoire de France.
Oui, c'est compliqué. Effectivement, c'est compliqué. Il faut que ça soit bien fait et référencé.
Il faut faire confiance au scénario et au metteur en scène. À partir du moment où on lui a dit oui, c'est qu'on adhère à la manière dont il va les proposer.
C'est pas tout le temps la blague, hein, le cinéma. On n'est pas tout le temps là, au second degré, pour tout le temps, où rien n'est grave.
Oui, on a moins rigolé sur...
On a moins rigolé, mais parce qu'on n'avait pas envie non plus.
Oui, moins rigolé sur le J'accuse, là, mais pour le coup, sur Président, vous vous êtes amusé hein, sur le tournage, ça se sent.
Bah, ça swing, oui, parce qu'en fait, elle nous met aussi dans une... C'est très confortable, Anne Fontaine nous met à ce moment-là dans un écrin de jeu, c'est-à-dire on est dans pratiquement un plan séquence. Donc on a le temps de s'entendre, on a le temps d'entendre les réactions de l'autre, on a le temps d'inventer. C'est un bœuf, hein, c'est du jazz. Hein, et avec Grégory, c'est tellement simple, c'est tellement joyeux que voilà, les journées passent vite.
Et ça sort mercredi, Président au pluriel, d'Anne Fontaine, Jean Dujardin, Grégory Gadebois, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
7h50, retour à la politique, la vraie, je veux dire, avec Nicolas Bétou, l'édito politique dans un instant.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h52 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Retour sur le second tour des élections régionales, avec, selon vous, une deuxième mauvaise journée pour Emmanuel Macron ?
Ben oui, avec probablement un des pires scénarios imaginables pour le parti du président de la République. En moyenne, sur le territoire, ses candidats, lorsqu'ils n'avaient pas été sèchement éliminés dès le premier tour, ont fait dans les 10% pour un parti au pouvoir. C'est vraiment historiquement faible. Et ça a une traduction concrète. Vous allez voir, c'est assez parlant. Il y avait près de 1800 conseillers régionaux à élire. La République En Marche n'en aura qu'environ 80. Et sur 4000 conseillers départementaux, le parti du président n'en aura qu'une petite centaine. Autant dire qu'il a totalement raté son implantation locale.
Oui, mais alors est-ce que cet échec local, je reprends vos termes, c'est aussi un échec national?
Alors bien entendu, Emmanuel Macron a essayé, selon l'expression consacrée, d'enjamber ces élections locales, histoire de dire qu'elles n'auraient aucune conséquence, ni pour lui, ni pour sa politique nationale. Et j'admets que traditionnellement, les élections intermédiaires ne profitent pas au pouvoir en place. Mais à ce point-là, c'est impossible de ne pas en tenir compte. Ce qu'on a vu hier se produire dans les urnes modifie en fait toute la dynamique politique. La gauche relève la tête, même si on voit que dans ces territoires de conquête, elle plafonne assez vite. Et la droite affiche de beaux scores et des ambitions toutes neuves. En fait, la stratégie d'Emmanuel Macron, qui était de casser la gauche et la droite, de les diviser et d'aspirer leurs électeurs, cette stratégie ne fonctionne plus. C'est le retour d'une forme de polarisation gauche-droite qui obligera le chef de l'État, candidat à sa succession, à réécrire les scénarios pour 2022. D'autant que le Rassemblement national échoue lui aussi lourdement et n'emporte aucune région.
Thierry Mariani est battu en PACA, une région qui, avec Bourgogne-Franche-Comté, semblait pourtant à la portée du Rassemblement national.
Et résultat, les électeurs de Marine Le Pen vont commencer à douter que celle-ci soit la mieux placée pour battre Emmanuel Macron dans un duel de second tour en 2022. Et comme Xavier Bertrand et Laurent Wauquiez, hier soir, ont clairement affiché leurs ambitions dans un discours à la tonalité nationale, avec un argumentaire national et un objectif national, eh bien on voit poindre une hypothèse du style « rien ne se passe jamais comme prévu ». Emmanuel Macron ne peut pas ignorer que tout, depuis hier, c'est compliqué pour lui. Alors bien sûr, à lui maintenant de se relancer.
Alors c'est ce qu'il va faire dès cette semaine avec un calendrier très chargé.
Oui, des interventions, des sorties, des réceptions, essentiellement sur le thème économique et social, là où il est fort. Donc, sauf que désormais, la bataille va davantage se dérouler sur les thèmes de la sécurité et du régalien, là où il est plus faible. Je vous le dis, pour lui, tout se complique.
Votre édito politique, c'est tous les matins à 7h50. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Et tous les jours, juste avant 8h, Nicolas Canteloup conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Dominique Régnier, professeur à Sciences Po, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Et c'est Nicolas Sarkozy qui est venu lui dire un mot.
Oui, bonjour monsieur Béliard. Bonjour monsieur Bétou, que j'écoute attentivement. Merci de m'accueillir sur votre antenne, un peu la mienne aussi. Écoutez, avant de dire un mot sur monsieur Régnier, le prof de Sciences Po, je viens d'entendre. Bien sûr, attentivement sur votre antenne, Jean Dujardin qui joue dans le film d'Anne Fontaine. Moi, je dois vous dire que c'est un bon choix pour jouer mon rôle. Mais c'est vrai, c'est cohérent, un grand brun, il met des Français, qui plus est oscarisé, c'est cohérent. Puis pour jouer François Hollande, bon ben voilà, cohérent aussi, ils ont pris un petit gros qu'on ne connaît pas trop. C'est un très bon choix, il s'appelle Grégory Gadebois. Attention, c'est sûrement un super comédien, mais c'est vrai, vous me l'accorderez, il est moins connu que Jean Dujardin. Bon, je vais donner un coup de main. Je vais donner un coup de main à Dominique Régnier pour lui livrer mon analyse sur l'abstention en très court, qui diffère un petit peu de celle de M. Bétou, mais vous verrez. À Paris, pour moi, à Paris dans le Nord, les Français ne sont pas allés voter parce qu'il pleuvait. Voilà. En revanche, dans le Sud, les Français ne sont pas allés voter parce qu'il faisait beau. Donc, mon analyse, l'analyse à moi, c'est que les Français, ils ont fait le choix historique de n'en avoir rien à foutre de ce scrutin. Voilà, c'est l'analyse que je vous livre. C'est cadeau, attention, c'est normalement, vous le savez, M. Bétou. M. Béliard, je prends 100 000 de l'heure. Là, c'est cadeau. Voilà.
C'est sympa, c'est complémentaire, Nicolas Bédou, comme analyse. On ajoute un peu de météo.
Entre la météo et la politique.
Voilà, ce qui nous amène très logiquement à Laurent Cabrol dans un tout petit instant avant le journal de 8h. Bon réveil à tous. Europe 1. 7h59, Laurent Cabrol est avec nous, avec ses cartes gribouillées d'orage, c'est
ça ? Oui, gribouillées d'orage, les orages sont parfois très méchants. Alors, on parle d'orage comme ça, c'est banalement, puisqu'il y en a tellement qu'on ne peut pas entrer dans le détail, mais ils ne sont jamais anodins ou anecdotiques. Celui qui est tombé hier soir, des milliers de grêlons et qui ont vraiment envahi la ville. Alors, ils n'étaient pas très gros, mais ils étaient énormément nombreux, et c'est ce qui a, disons, ce semer un peu la panique dans cette ville du Puy-de-Dôme. Alors les orages, il y en aura encore aujourd'hui, Champagne, Ardennes, Bourgogne, Auvergne, les Cévennes, la région Rhône-Alpes dans l'après-midi, attention à Lyon, la Lorraine, l'Alsace, la vallée du Rhône, bref, ce sont des orages qui sont pratiquement disséminés sur l'ensemble de la France, mais avec, en général, c'est l'après-midi qu'ils éclatent et qu'ils sont les plus dangereux. Sur la Loire-Atlantique, la Vendée, il pleut un petit peu ce matin et ensuite les orages ont éclaté du côté de la Bretagne, la Normandie, le Poitou-Charentes et sur le massif pyrénéen. Et puis quelques rayons de soleil quand même sur le nord Picardie, la région parisienne, ça ne veut pas dire qu'il ne pleuvra pas. Un ciel voilé en Méditerranée. Les températures maximales, 18 à Nantes, 19 à Poitiers, 20 degrés à Bordeaux et au Havre. À Limoges, Nevers, Bayonne et Clermont-Ferrand, 21 à 22, 23 à Lille, 24 à Paris, 26 à Épinal, 27 à Lyon et 30 degrés à Nice et à Cannes.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. On écoute Le Monde Changer.